peux vous déranger comme 2-3 minutes? On est dans une manif étudiante. Vous avez l'air d'être des étudiantes. Êtes-vous des étudiants?
Nous sommes des étudiantes.
Je travaille à une émission qui s'appelle Dans le champ lexical, c'est à CIBL. Et le thème de la semaine prochaine, c'est épicerie. C'est un peu loin de la manif étudiante. Vous allez voir, je vais y arriver. Je me demandais, il y a comme deux courants de pensée un peu extrêmes. Il y en a un qui dit que les étudiants sont riches, ont des iPhones. Quand ils vont à l'épicerie, les étudiants achètent du filet mignon. L'autre frange dit que les étudiants n'ont pas une scène et donc mangent du Kraft Dinner. Est-ce que votre épicerie à vous, est-ce qu'elle est plus Kraft Dinner ou filet mignon?
La mienne est vraiment plus Kraft Dinner. Kraft Dinner et même ramen. Puis j'achète des légumes en spéciaux. Mais sinon, il y a plusieurs dérivés aussi. Il y a les soupes en conserve qui sont très populaires. Sinon, il y a les mets déjà préparés aussi. Mais je vous dirais que le budget étudiant est assez limité pour la plupart des étudiants qui habitent en appartement, justement. Je connais pas beaucoup d'étudiants, moi, qui consomment du filet mignon ou même de la viande à chaque jour.
Donc, toi, quand on dit les étudiants à l'épicerie achètent du Kraft Dinner, concrètement, oui.
Oui.
Merci.
C'est vous.
Bienvenue à Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Cette semaine, vous l'aurez compris, on vous parle d'épicerie. Et comme l'épicerie, c'est le lieu de plusieurs rencontres, ou peut-être juste du vivre en société, dans d'étroites rangées, en jugeant la nourriture des autres, on a décidé de faire cette émission-ci un peu plus anecdotique qu'à l'habitude. Alors aujourd'hui, on vous présente différentes histoires racontées par nos collaborateurs, par des professionnels de l'épicerie ou par vous, cher public, qui prêtez votre voix chaque semaine à notre Vox Pop. Dans un instant, on commence avec une lecture et un texte de Lisanne Rowe-Leblanc, Le bonheur est en spécial cette semaine.
Elle n'avait mis qu'un pied dans l'immense espace frigorifié, et déjà l'envie de tout laisser tomber et de se commander du resto pour le restant de ses jours l'assaillit. Elle n'avait pas la force de choisir, de tâter, de pousser, de se battre avec les sacs de plastique, d'acheter 50 livres de steak haché, de compter ses articles pour savoir si elle pouvait passer à la caisse rapide. Cette profusion de nourriture, trop compactée dans le même espace, l'écœurait. Sa salive goûtait très bizarre soudainement, avec des relents de croche au raisin. Au loin, un carrosse étincelant l'aveugla, grinçant sur le parquet ciré jusque dans son crâne à la naissance des cheveux. Elle reporta son regard sur les rangées infinies de fruits et de légumes. Sous les néons, les pommes avaient une sorte de rouge irréel, sauf les Granny Smith, vertes perroquets. Et plus elle s'approchait, plus elle avait l'impression d'être face à des lumières de Noël géantes. À côté, les bananes brillaient comme des soleils, concurrencées seulement par les oranges et les citrons. Des aubergines éclataient de mauve, telles de gros échymoses, et jouaient du coude avec les laitues, émeraudes comme des morceaux de pelouse bien entretenus. Elle eut tout à coup un prodigieux tournis, avant de perdre connaissance et de s'effondrer dans les lobos à 1,59 la livre. Un très bon deal. Tomber dans les pommes, « C'est tellement cliché », songea-t-elle dans sa confusion partielle. La position était vraiment inconfortable. Elle ressentait chacune des petites sphères lui enfoncer le dos et ne pouvait s'empêcher de se demander combien coûteraient les pocs qu'elle ne manquerait pas d'infliger aux fruits. mais chaque fois qu'elle tentait de se relever, l'ampleur de la tâche la décourageait, sa tête se mettait à tourner comme dans un blender et la nausée prenait de l'assurance. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je vais mourir ici? C'est vrai qu'une petite migraine la taraudait depuis ce matin. Depuis 2 semaines même. Cancer? Cancer du cerveau? Le pire. Des crises, des convulsions. Ou alors anévrisme. Oh, pas ici, pas maintenant. Je suis en train de mourir, c'est ça? Déjà? À 30 ans? Oh non, je veux pas tout de suite, c'est pas possible. Je croyais que tu haïssais ta vie. Ouais, mais c'est pas grave, c'est ce que tout le monde fait, non? Se plaindre le plus possible, s'apitoyer sur son sort pendant que ça dure. Non, désolé, il y a tout de même un taux de bonheur minimum requis. Je vais me rattraper, je vais changer, je vais mordre dans la vie désormais comme dans une pomme. Ouais, je l'ai déjà entendu celle-là. Paniquée et sentant sa dernière heure arriver, elle essaya d'avoir une pensée digne, quelque chose qui donnerait l'impression que la vie avait un sens, surtout la sienne. Mais elle ne pouvait penser qu'à l'émission L'épicerie. Elle perdit connaissance de nouveau en revoyant dans sa tête un reportage sur les différentes râpes à parmesan. Lorsqu'elle reprit conscience, ses yeux refusèrent de s'ouvrir, comme les enfants qui ne veulent pas sortir du lit les jours d'école. Un gros ananas bien juteux avait pris la place de son cerveau, refoulant des brûlements d'estomac à ses neurones. Son corps semblait être en mouvement, probablement sur un objet affublé de roulettes. Une civière? Sous ses paupières closes, de fortes lumières se succédaient comme des flashs d'appareils photo. On devait l'emmener en salle d'opération. Merde! C'était plus grave qu'elle ne le croyait. Au moins, la vie ne l'avait pas encore quitté définitivement. Pas encore. Articula-t-elle. Elle a parlé! Madame! Madame! Lança une voix trop proche qui sentait les petits nounours en gelée. Cette infirmière a vraiment l'air jeune. Ils doivent les kidnapper à la sortie de l'école à cause de la pénurie. Puis elle se dit qu'elle devrait appeler sa mère pour lui annoncer qu'on l'opérerait au cerveau d'une minute à l'autre. Sa mère serait très fâchée parce que le mardi soir, c'était sa soirée acupuncture et tai chi. Mais bon, on ne meurt qu'une fois, hein? Elle imaginait bien tous ces gens en blouse blanche en train de courir à côté de la civière, le regard paniqué, un look à la Grey's Anatomy, habité par toutes sortes de pensées éparses. Est-ce que je ferais la bonne incision dans sa tête? Et si je me plantais? Et si le Dr. Sloan était en train de me tromper avec sa secrétaire? C'était sa série préférée, et il y avait quelque chose d'exaltant à s'imaginer dans ce décor, sauf peut-être pour la perspective de mourir si jeune. Il fallait voir ça à tout prix, et elle décida, tout de même à contre-cœur, de regarder la mort en face, ou du moins, du coin de l'œil. La toute petite fente qu'elle se permit d'ouvrir laissa pénétrer une lumière vraiment insupportable, exactement comme quand Meursault tue la rame dans L'Étranger. Sauf qu'il ne faisait pas chaud. En fait, elle avait vraiment froid. Elle le referma aussitôt en respirant bruyamment. Cette contraction spontanée lui révéla que son mal de tête avait pris des vacances inopinées, émigré vers le cou, comme si une barre de métal lui traversait la nuque et que ses jambes étaient parcourues de fourmillements. Ce corps-là était foutu, il lui faudrait une greffe. Et dire que ce matin, tout laissait présager une journée comme les autres. Elle avait même presque réussi à ne pas arriver en retard au travail, mais finalement n'avait pas trouvé de parking pendant 20 minutes. Elle avait prétendu qu'elle travaillait très fort jusqu'à midi, où elle s'était enfilé des vieilles pâtes réchauffées au micro-ondes, puis avait passé le reste de la journée à essayer de faire fonctionner la photocopieuse, espérant secrètement l'arrivée du beau stagiaire et une baisse vraiment mémorable, surtout grâce aux photocopies de la chose. Ça ne s'était pas produit. Elle était rentrée dans son 3,5 pour constater qu'il n'y avait rien à manger. Non, vraiment, une journée comme les « Janine est demandée à sa caisse, s'il vous plaît! Janine à sa caisse! » émirent les haut-parleurs, stoppant le fil de ses pensées. Bon, quelque chose clochait. Il fallait ouvrir les yeux d'un coup, comme tirer sur un plaster. Bang, pouf, cringe! Ce qu'elle vit n'avait vraiment rien d'un hôpital, à moins qu'on y ait soudainement installé des rangées de nourriture en canne. Elle n'avait même pas quitté l'épicerie. Elle songea que le seul médecin qu'elle risquait de rencontrer ici était le docteur Edgar et ses pizzas à côte mince. Deux adolescents boutonneux poussaient un panier dans lequel on l'avait installé, le siège pour enfants bien enfoncé dans le derrière de la tête. On l'avait aussi emmitouflé dans un amas de sacs de plastique où se découpaient les lettres du nom de la chaîne d'épicerie en rouge sang. Devant son air confus, le garçon, nommé Grégory, selon le badge sur son uniforme de commis, fit un petit sourire gêné. « J'ai vu que vous aviez froid, puis c'est tout ce que j'ai trouvé pour vous abrier. » Elle hocha la tête sans répondre, se laissant porter dans la carcasse rouillée à la solidité relative, observant au passage les boîtes de gâteaux, les pains, les sacs de farine, les craquelins, les sauces tomates, les épices, tous classés, comme dans une sorte de bibliothèque alimentaire. « Bonjour, j'aimerais emprunter du sel, un steak et deux bananes, s'il vous plaît. Parfait, avez-vous votre carte? Vous avez 2 semaines pour les rapporter. Merci, au revoir! » Le garçon poussait l'engin, et même si cela semblait être un effort, elle pouvait voir qu'il essayait de garder son visage le plus impassible possible par politesse. Une jeune fille trottinait à côté de lui, avec le même uniforme bourgogne, faisant Alice et Lulu dans le mouvement et, tout en avalant des jujubes, jetait parfois des regards inquiets vers cette femme étrange, blême, dépeignée, étendue au fond du panier. Entre deux comptoirs de viande, lumineux comme des salles d'opération, le carrosse passa une large porte brune pour s'enfoncer dans un entrepôt de béton gris sombre où la température aurait pu concurrencer celle du pôle Nord. Visiblement, les sacs de plastique n'avaient pas été conçus pour ce genre d'expédition sous zéro. Elle se dit qu'avec cet accoutrement, elle avait juste l'air d'une momie et qu'il pouvait aussi bien la congeler maintenant et la réveiller dans 200 ans au micro-ondes à Aïe. « On va vous installer ici si vous le voulez bien, madame », articula la petite fille. « J'ai emporté des sacs de patates pour que vous puissiez vous étendre dessus. » Elle était trop sonnée pour discuter cette idée saugrenue et elle s'allongea sur ce lit de fortune qui lui rappelait vaguement les pommes de tout à l'heure. « Va chercher quelque chose pour sa tête », lança la fille au grand Grégory qui partit d'un pas rapide vers la sortie. La fille n'avait pas de badge, mais elle la baptisa mentalement Lulu à cause de ses cheveux. Il était clair qu'elle s'amusait à faire semblant d'avoir quelque chose à faire. Au bout de quelques minutes, à bout d'imagination, sans lecteur MP3 ou Internet, Lulu s'apprêtait à parler lorsque Grégory revint avec un sac de pois congelé, un classique pour les blessures, enflures et autres hures, qu'il déposa sur la tête de la patiente. « J'espère que vous allez mieux. » Elle hocha la tête et fit un sourire contrit. « On voulait pas appeler l'ambulance avant de savoir si c'était grave, parce que ça pourrait faire fuir les clients. T'sais, on a une réputation d'excellence ici. » Il récitait son beau laïus d'adolescent sérieux dans sa première job, et elle en était touchée, comme si quelque chose d'oublié, de perdu, était apparu en elle, avait fondu malgré l'air glaciaire. Après, un silence inconfortable comme son lit de patates s'installa. Elle voulait parler, s'expliquer. Mais quoi dire? Elle n'avait pas l'habitude de faire des scènes dans les épiceries. Ça ne lui était arrivé qu'une seule fois, en 98, dans un restaurant de sushi. Mais elle avait blâmé la fraîcheur du poisson. Eh ben bravo! Quoi encore? Ton mode de vie de dégénéré t'a donné un cancer! Dégénéré, ça semble un peu exagéré. La dernière fois que j'ai fumé une cigarette, j'avais encore des broches. Et la dernière fois que t'as couché avec quelqu'un, Mulroney était au pouvoir? Merci, c'est vraiment encourageant. C'est fou comme la vie est belle. Bon, où sont passées les belles résolutions de notre mourante? Ok, t'as pas le cancer, mais bouge-toi un peu, tu vas attraper ton coup de mort ici. La jeune fille la regarda d'un drôle d'air. Est-ce qu'elle avait laissé échapper une bribe de son dialogue intérieur? Peu importe. Il était en effet temps de retrouver un peu de dignité perdue. Elle se demanda s'il n'y en avait pas en stock ici. Merci pour tout, mais vous devez sans doute retourner travailler, et puis moi je dois vraiment aller mettre de l'argent dans le parcomètre. Elle se leva avec lenteur, craignant encore secrètement une baisse de pression soudaine. Sigi, la fille du supermarché qui, décidément, a dû trop se gaver de glutamate monosodique aujourd'hui. Comparée à la noirceur de l'entrepôt, l'épicerie lui sembla de nouveau aussi lumineuse que si elle était un papillon de nuit collé à une ampoule. Légèrement désorientée, elle emprunta une allée au hasard, perdue dans ses pensées, essayant de retrouver une miette de bonheur, une once de tangible qui donnait encore le goût d'avancer, de se lever, de manger, et même, pourquoi pas, d'entretenir une certaine hygiène. L'inventaire n'était pas si long à faire. Elle n'était pas reconnue pour sa mémoire d'éléphant, et ce qui lui restait de moments volés, vaguement heureux, tenait dans un petit tiroir léger dans le fond de sa tête. Souper de fête à l'âge de 12 ans, Disneyland avec papa, le beau Jonathan à son bal de finissant, son road trip aux États-Unis. Et puis, après un certain âge, tout ce qui restait n'était plus que travail, factures, petits appartements minables, défaites, tours de taille et cernes qui augmentent, désespoir, temps gris, temps gris, temps gris. Mais cette fois, elle aperçut autre chose qui lui donna un peu de courage. Oui, elle se rappelait. C'était Noël, il y a 2 ans peut-être. Il faisait bon près du calorifère, la lumière était chaude, orangée, tirant sur le mauve. Le gigantesque sapin était rempli de boules or et argent, de guirlandes rouges, et une étoile trônait sur sa cime, sans compter les innombrables cadeaux à ses pieds. De la musique, partout. « Let it snow », chanté par Dean Martin. Ils étaient tous autour de la table, souriant, à se raconter des blagues et à se souhaiter des vœux plus touchants les uns que les autres. Oui, tous. Grand-papa, grand-maman, papa, maman, sa sœur, son frère. Mais j'ai pas de frère. Elle avait tout imaginé. Ce n'était qu'une photo aperçue ce matin, hier matin et plusieurs matins avant sur sa boîte de céréales. Sans doute un concours. Ouf! Heureusement, sa vie n'était pas aussi cheesy. À bien y penser, cette agitation lui avait donné une petite fringale. Et tant pis pour le régime. L'idée d'un craft dinner bien gluant lui semblait tout à coup délicieuse. Elle fit demi-tour et marcha d'un pas vif vers la rangée F, jetant le sac de petits pois par terre et le laissant se liquéfier tranquillement.
Le bonheur est en spécial cette semaine. Une nouvelle écrite et lue par Lisanne Rolleblanc, publiée dans le numéro 22 de la Revue 5.
moi faut m'opposer. Dis-moi dimanche, c'est quand t'arrives dimanche, moi faut respirer.
Vous nous avez demandé si c'était possible d'ouvrir sans déchirer un sac de pommes de terre ou de farine qui est cousue.
Eh bien, nous sommes allés à Saint-Germain-de-Grand-Anne, près de Drummondville, trouver la réponse.
En 2009, l'émission L'Épicerie faisait un reportage sur la petite corde qui ferme les sacs à patates. C'est sûr qu'après 8 ans dans des épiceries, des fois, un sujet, ça peut être plus difficile à renouveler. Mais moi, ce que j'aime dans ce reportage-là, c'est m'imaginer le gars qui appelle le caméraman pour lui dire « Ouais, faudrait que t'ailles à Saint-Germain-de-Grand-Anne filmer des petites cordes de sacs à patates. »
Ma question Vox Pop de la semaine, si tu faisais ton épicerie, qu'est-ce que t'achèterais?
Il faut pas, il fait plus de cochonneries.
Oh, alors?
Non, il comprend pas. Lui,
on veut pas de ça.
Non, non, c'est pas. Je
vais prendre du savon vaisselle et du manger, c'est tout.
Quel genre de manger?
Une collation pour que j'aille à la garderie.
J'achète quelque chose de bon pour la santé. Des fruits, des légumes. C'est ça, j'ai acheté du popcorn, là. ça se peut aussi de la crème glacée.
Moi, j'achèterais les petits guimauves, les genres de petits guimauves en fraises, là. Ils sont sucrés, là, avec un gros sac de jumbo guimauves, puis aussi plein de sacs de chips.
J'achète des carottes, des fraises, des bleuets, des kiwis, des bananes, des fraises, puis des rouleaux de fruits.
J'achèterais des cochonneries, mais en même temps, j'achèterais comme des fraises, des légumes un peu. Des chips, des bonbons, des jujubes, du chocolat et de l'alcool. C'est vrai que j'aime pas beaucoup les carottes.
Moi, j'achèterais du poulet parce que c'est nutritif et il y a beaucoup de calories. Aussi des fruits parce que c'est bon pour la santé.
Non, des chips, de l'alcool. Des bonbons, puis du chocolat.
J'achèterais des bonnes choses nutritives parce que si on n'achète pas des bonnes choses nutritives, ça ne nutritive pas.
La sauce.
Quel genre de sauce?
La sauce en spaghetti.
J'achèterais des popsicles parce que mes parents n'en achètent pas toujours. Moi, j'aime pas la viande.
De la viande, des légumes, des fruits, des gâteaux, caramel avec de la crème glacée.
J'achèterais de la viande, du poisson, des légumes, des bonbons, des petits gâteaux.
Spaghetti.
Toute la semaine?
Ouais.
Pendant une semaine, spaghetti?
Mais pas toute, là.
J'achèterais en tout cas des fruits et légumes. Mais des fois, j'achèterais peut-être des petites friandises, des foires. Parce que petite affaire de même, des foires, je sais pas, quelque chose de même. Et des nutritions d'eau, fruits ou du jus, quelque chose comme ça, puis
du gâteau.
À la vanille.
Des petits gâteaux, des petites collations faciles à manger, des bâtons de chocolat, des trucs de même faciles à manger.
Moi, j'aimerais ça acheter des affaires sucrées, comme les brownies, du chocolat, plein de bonbons, puis plus aussi du gâteau, puis des rouleaux fruits.
Crème glacée, des brocolis, ouais, céleri, carottes, de la viande, du chocolat, des frites, des médicaments.
Et vous?
Non, moi, non, j'ai pas de réponse pour ça.
Un peu d'enfer.
Cette bonne semaine de Sonny Duval se poursuit à l'épicerie. Bien égaré dans l'épicerie, entre les spaghettis et les spaghettini, j'ai commencé à m'empiffrer de rotini et de macaroni. Devant ma mine désemparée, un commis a dit: monsieur, laissez nos pâtes tranquilles, il y a une issue tout près, je vais vous la montrer avec plaisir. Et c'est ainsi que j'ai réussi à m'échapper de l'épicerie.
Il y a un client qui passe, tu lui vois un sac, il lâche un tabarnak. Regarde, il m'a demandé un sac. Il m'a donné un sac.
Ah, au moins, c'était
pas oui, oui, non, mais tu sais.
Il y a des fois, alors, ça peut.
Il avait dit quoi?
Il a dit que c'est un sac, tu sais.
Je lui demande s'il veut un sac, fait qu'il me lâche un tabarnak. Là, je le regarde, il dit qu'il m'avait demandé un sac. Mais c'est parce qu'ils ont sens de l'humour. Nous autres, on joke tout le temps, mais c'est comme.
Je me trouve présentement à une petite fruiterie-épicerie sur la rue Ontario dans Hochelaga. Vous écoutez dans le champ lexical et cette semaine, le mot c'est épicerie.
Ouais, c'est ça. Mais madame, on les voit toutes ici. Moi, c'est Paula.
Paula. Et puis, ici, ça fait pas si longtemps que ça. Que
ça fait 2 ans qu'on est ouvert.
Mais est-ce que c'est à vous?
Oui. À moi, par mon conjoint.
OK. Et puis, qu'est-ce qui vous a décidé de partir une...
Écoute, c'est une idée fou. On travaillait pour mon beau-père. Puis ensuite, mon mari a dit, écoute, t'as l'air d'être bien, à l'aise avec. Fait qu'on est venu sur la rue Ontario. Comme des prostituées, si tu veux. On s'est mis sur le coin, puis on a demandé aux gens qu'est-ce qu'ils penseraient d'avoir une fruiterie. Et ça y est, bingo, on a ouvert un commerce et depuis 2 ans, ça marche très bien, très satisfait.
Et puis là, ici, vous devez en voir passer de toutes sortes.
Écoutez, madame, on en voit de tous les sortes, de tout. Mais c'est bien, c'est un beau quartier, c'est un quartier qui se développe très bien, mais oui, on voit de tout, c'est bien. Ben, des anecdotes, on a de toutes les couleurs. C'est souvent relié, malheureusement. On rit beaucoup parce que c'est une entreprise qui est familiale, puis on est très chaleureux. Mais les gens rentrent. Maintenant, on avait reçu des grosses carottes de la Chine et tout, puis c'était dans un panier. Puis là, les gens rentraient, puis ils disaient, oh, des jouets pour adultes, sans batterie. Puis c'est des niaiseries comme ça, mais c'est qui revirent en comique, mais pas sérieux.
Vous parliez d'une gaffe que vous avez faite avec...
J'ai une madame qui est rentrée, puis moi, je suis tellement... Puis la madame est rentrée, puis elle venait d'accoucher. Ça faisait quoi, une semaine? Et ma mère, elle est rentrée, je l'ai regardée, je lui ai demandé, j'ai dit, vous êtes due pour quand? Puis la madame me regarde, elle dit, j'ai accouché, le bébé, il dort. Tu viens que tu dis, faut pas que tu parles, ou tu dis, vous êtes due pour quand? Mais elle dit, parce que je suis pas enceinte. Fait, j'ai appris avec l'année que, gars, faut peut-être faire attention comme... j'ai une madame qui rentre le matin. Et Dieu sait, dans le quartier qu'on est, c'est fun. Puis, bonjour, madame. Pardon. C'est un monsieur. Fait que là, tu dis, OK, comment qu'on s'adresse à ces gens-là? Mais c'est ça. C'est faut faire attention. On a beaucoup de gens comme ça. Puis, où des gens, on est près du quartier gay. Et écoute, on a beaucoup, je pense qu'il y a 90% de notre clientèle est gay, mais écoute, on a du plaisir avec ces gens-là, c'est les plus humains qu'il n'y a pas au monde. Puis je veux dire, écoute, on en dit des niaiseries avec eux autres, puis on se trompe souvent, les travestis, puis tu sais, on dit monsieur, mais c'est madame, mais c'est monsieur. Les employés, ils ne savent plus comment s'adresser parce que on reste bouche bée, là, tu sais, mais non, c'est agréable.
Quand j'étais en première année, en 1984, dans ma petite école primaire des Cantons de l'Est, je me souviens qu'on avait fait une pièce de théâtre qui s'appelait « Mademoiselle Tomato ». En gros, là, c'était bon, c'est l'histoire d'un paquet de fruits puis de légumes qui se sont connus à l'épicerie, si je me souviens bien, là, des débuts. Puis, le gros buzz, je me souviens, c'était que les costumes étaient faits par les élèves de quatrième année. Moi, quand j'ai su que j'allais être Monsieur Raisin, vous comprenez que je me suis imaginé là un méga beau costume avec des ballons mauves, là, digne là, des shows de Diane Dufresne des années 70. Je vous laisse deviner ma déception quand on s'est rendu compte que les costumes, en fait, c'était des gros cartons noirs peinturés à la gouache. Puis on s'entend que c'était pas toutes des Léonard de Vinci en quatrième année. Hein. Enfin, outre ces considérations techniques-là, l'histoire de Mademoiselle Tomato gravite autour de, vous l'aurez deviné, Mademoiselle Tomato, qui coule des jours heureux jusqu'au jour où le facteur, M. Carotte, lui apporte une lettre.
Qu'est-ce que c'est ça? Tu peux m'envoyer une autre lettre?
C'est une invitation au grand bal du printemps au jardin de M. Pépin, ni plus ni moins. Alors tu comprends, Mademoiselle Tomato est excitée comme une folle et puis elle s'en va magasiner une robe avec sa meilleure amie, Frite la patate. Mais bon, au fond, elle finit juste par faire un genre de farandole devant la vitrine des magasins en chantant comment c'est donc le fun de magasiner dans la vie. Et puis, le jour venu, elle enfile sa peau de robe, parce qu'en fait, elle garde exactement le même costume qu'elle avait au début, puis elle se rend à la fête. Moi, je suis Monsieur le Raisin, puis mine de rien, j'ai quand même un gros rôle dans tout ça, parce que je suis le maître de cérémonie qui accueille les invités au bal. Vous voulez des exemples de c'est qui les invités? Alors les voici. Il y a Cocotte l'échalote, Pierrot l'oignon, Monsieur Petit Pois, Madame Laure Ange, ouh, le jeu de mots, Mimi la fraise, Réo le radis, Pipo le haricot, Pompon le champignon, Lulu la laitue. Mais le gros scandale dans tout ça, ton ton ton, c'est que tout le monde arrive accompagné à cette soirée-là. Tout le monde, mais pas Mademoiselle Tomato. C'est ce qui me donne d'ailleurs une des meilleures répliques en tant que maître de cérémonie lorsque je dis Mademoiselle Tomato est... Malheureusement toute seule, ce qui provoque l'hilarité générale dans la salle. Alors, arrivent ensuite des activités pas super palpitantes à raconter, comme l'heure du repas, le tirage des cadeaux et la danse au son d'une improbable version disco de l'ouverture de Guillaume Tell. Vient le moment où tout explose, quand tout le monde se réunit en rond et a droit à son heure de gloire, en chanson, pour que ça rime, bien évidemment. Par exemple, « Grand-mère la poire break danse dans le noir » et « Les beaux radis valsent sans bruit ». Mais pendant ce temps-là, là, Mademoiselle Tomato a pète une coche puis a pleure en silence. Pourquoi?
Parce que tout le monde danse et personne ne l'invite à danser!
Mais c'est parce que personne ne l'invite à danser, elle. Puis c'est là que Madame la Framboise a une révélation. C'est parce qu'en fait, Mademoiselle Tomato, là, ben, c'est un fruit et un légume en même temps. Bref, une grosse crise existentielle un soir de bal cheap, quand même. Mais branle-bas de combat. Arrive au même moment, évidemment fashionably late, l'âme sœur de Mademoiselle Tomato, j'ai nommé Monsieur l'Avocat. Lui aussi, fruits et légumes de métier. Alors tu comprends, c'est le coup de foudre instantané et les deux tourtereaux finissent la soirée ensemble, mais pas dans une guacamole, là. Non, non. Donc, morale de cette histoire, si vous êtes tout seul dans la vie, ne désespérez pas parce que vous allez toujours finir par trouver votre fruit, ou votre légume, ou votre frégume, ou votre, l'aiguille. Non, mais le vois-tu, comme c'est beau?
In love, in love, in love. Oh. Je l'avoue, j'adore faire l'épicerie. C'est une activité qui comble nombre de mes pulsions. La gourmandise, une propension à stocker, une faiblesse envers les primes et rabais, la sensation d'être une bonne maman quand j'achète des choses vraiment bien pour la santé et d'être une chouette maman quand je craque à l'occasion pour des gâteries, pour des surprises. Et surtout, l'épicerie comble mon goût de l'organisation des choses. Je suis devenue bibliothécaire sur le tard, mais j'avais depuis toujours en moi ce goût de l'organisation logique des choses. Et quoi de plus ordonné que des allées d'épicerie? Fruits et légumes, viande, poisson, laitage, céréales, biscuits, jus, conserves, etc. Le moment où, une balado-diffusion dans les oreilles, je roule paresseusement ou à tout berzingue dans les allées familières de mon épicerie, de façon routinière, chaque semaine, est un petit bonheur de rêverie solitaire. L'apparition d'un nouveau produit ou d'une promotion inattendue en bout d'allée m'offrant juste ce qu'il faut de surprise et d'impromptu dans mon rituel bien réglé. Bien réglé, bien organisé. Parce que la division logique des aliments, je la reproduis des allées à mon chariot. Les fruits délicats dans le siège pour enfants, la viande à l'avant, les conserves, les boîtes de jus au fond, les pots de yogourt par-dessus, bien droit, bien debout. Ainsi, arrivant au tapis de la caisse, je peux tout aligner encore sans rien mélanger. Les gros trucs lourds en premier, et puis les pots de yogourt. J'insiste toujours auprès du patibulaire emballeur pour qu'il soit mis au fond d'un sac, à la verticale. Parce que un dégât de yogourt, vous serez d'accord avec moi, il n'y a rien de pire. Ensuite, les autres laitages, le fromage, etc. Puis les boîtes, les céréales, les biscuits. Viennent alors les viandes, que j'empile sur le tapis joliment, du plus grand rectangle de styromousse. Vous savez, cet absurde format familial tellement long qu'il n'entre dans aucun tiroir à viande de frigo et se casse bien trop facilement, jusqu'au plus petit. Les poissons, à côté des viandes, ne pas mélanger. Et je m'agace en silence si la caissière mêle viande et poisson dans le même petit sac blanc. Viennent enfin les légumes et les fruits, du plus robuste au plus fragile. Si j'ai tout bien fait, en suivant le rythme de la caissière et en espérant que l'emballeur sera aussi véloce qu'il est patibulaire, les achats conserveront cette belle organisation passé la machine qui fait pip-pip-pip et aucune de mes précieuses denrées ne sera abîmée. Si d'aventure il y a fouillis, je réfrènerai mon envie d'y remettre de l'ordre et repasserai plutôt en revue les achats, mentalement, toujours en défilant les catégories, pour m'assurer d'aucun oubli crucial. Farine, vinaigre blanc, vous savez ces ingrédients dont l'achat est si occasionnel qu'on les omet de notre exercice hebdomadaire. Oui, mais voilà, depuis quelques semaines, les oublis se multiplient. Mon épicerie a procédé à un réaménagement complet de ses allées et j'y suis plus perdue que si on m'avait parachuté en pays étranger.
Qui n'a n'a jamais lu un article de magazine qui suggérait aux âmes esselées de fréquenter le rayon des surgelés de leur supermarché afin d'y rencontrer d'autres célibataires qui rêvent de partager leur repas du vendredi soir. En tout cas, si on se fie à la plupart des chansons ayant pour décor une épicerie, les IGA Provigo et compagnie n'ont rien à envier aux lovers de Brossard.
Chez Félix Potin, le matin, il venait prendre son turbin, car il était de son métier, garçon épicier, des plus appréciés.
Il avait du goût. Dans Le garçon épicier, Fernandel, né Fernand-Joseph Désiré Constantin, nous raconte l'histoire d'un employé d'épicerie qui est très apprécié de ses clientes. Elle se dispute donc l'honneur d'être servie par ce charmant garçon qui les séduit à coups de « Avec ça, madame, je suis à vous, qu'est-ce qu'il vous faut? Avec ça, madame, je vous garantis mes pruneaux. Avec ça, madame, ma belle asperge d'Argenteuil. » Vous y voyez des doubles sens? Eh bien, vous n'avez pas tort, puisque l'histoire se poursuit par une demande en mariage de la part d'une de ses clientes, mariage qui tournera au tragique lorsque notre pauvre bougre apprendra que sa douce moitié le trompe avec la concurrence.
Avec sa madame, je vous garantis mes pruneaux. Avec sa madame, d'une belle asperge d'Argenteuil, il faut en faire votre deuil. Avec sa madame, plus rien c'est bon, je vais débiter. Il tira six coups, c'était pour lui une nouveauté. En disant la prime, madame Borgnole s'en chargera. Et je ne vous remercie pas.
La chanson « À l'épicerie » de la formation québécoise Les Surveillantes raconte l'histoire d'un jeune garçon timide qui a le béguin pour une caissière de son épicerie. Il est sous le charme, mais il hésite. Elle est là, debout près des légumes et moi près des agrumes. Devrais-je l'approcher? Son désir de plaire à cette fille qui a déjà sorti avec son frère est assez fort pour lui donner envie de changer son alimentation, puisque dans son dialogue intérieur, il lui dit « Laisse faire les hot dogs dans mon panier, je ferais un régime santé si j'étais avec toi. »
Elle est là, debout près des légumes, et moi près des agrumes, devrais-je l'approcher? Et toi, t'as fréquenté mon grand frère, te souviens-tu de moi? C'est moi son petit frère. Maintenant que j'ai 18 ans, je te trouvais cute, peut-être ça. Même plus que dans la photo trouvée dans son tiroir d'en haut. Laisse faire les hot dogs dans mon panier. Je ferai un régime santé. Si j'étais avec toi.
Les intentions de Plume Latraverse sont, disons, moins romantiques lorsqu'il pense à la femme de son épicier. Et comme la chanson ne dure que 48 secondes, je vous laisse les découvrir.
La femme de mon épicier à Gaëtan me semble très baisable. La femme de mon épicier à Gaëtan me semble très baisable. Je la prendrai par les mollets, lui ferai faire un tourniquet. Ah, Agueton, que ce serait une idée de tu, Agueton, de mettre mon épicier cocu. Que ce serait une idée de tu, Agueton, de mettre mon épicier cocu. Négonde, veux-tu du fromage? Ah, Agueton.
Quant aux dragueurs des supermarchés de la chanson de Jacques Dutronc, ce sont les clientes des grandes surfaces qui l'intéressent. Ce don Juan des ménagères avec un cœur de camembert porte les paquets, s'occupe de la marmaille, bref, il est sympa et attirant, mais méfiez-vous, c'est un truand.
Il est sympa et attirant, mais méfiez-vous, c'est un truand. Il se passe toujours quelque chose, car il fait ce que personne n'ose. Il prospecte, il prospecte, il prospecte au supermarché. Il introspecte les yeux fermés, il séduit tous les yeux ouverts. Oui mais il est, oui mais il est, oui mais il est un peu prospère. Il est sympa et attirant, mais méfiez-vous, c'est un truand.
Donc, si on se fie à la majorité de ces chansons, on finit par se demander « Coudonc, tout le monde va à l'épicerie pour cruiser. Il n'y a personne qui s'y rend comme moi pour l'action terre-à-terre consistant à remplir un panier afin de nourrir une famille. » Eh bien oui, messieurs, dames, Dans le champ lexical a réussi à vous trouver une chanson où le choix du commerce n'est pas basé sur le charme d'une caissière ou le sex-appeal d'un emballeur. Elle a été écrite par nul autre que notre reine de la chanson réaliste, Madame Bolduc. Dans la chanson « La grosserie du coin », Mary Travers met en garde les femmes au foyer contre la tentation de succomber au seul attrait des bas prix. Elle explique pourquoi elle préfère faire ses courses à la grosserie du coin, qui vend peut-être un peu plus cher, mais qui accepte de faire du crédit quand les temps sont durs, qui ne triche pas lors de la pesée des aliments et où elle est certaine d'en avoir pour son argent. Car voyez-vous, il faut se méfier des tomates et des petits pois bon marché qui donnent des brûlements d'estomac et se rappeler qu'il vaut mieux payer plus cher et avoir quelque chose qu'on digère.
À la grosserie du coin, ça fait bien mieux l'affaire. Quand on est pressé, on n'a rien qu'à traverser. À la grosserie du coin, on n'a jamais de misère. Quand on est cassé, c'est là pour nous avancer. Il y a des grosseries qui vendent meilleur marché qu'ailleurs, mais il faut toujours d'argent pour les payer sans comptant. Dans le courant de l'hiver, si notre mari est à rien faire, soyez assurés qu'il ne voudra pas nous avancer. Ceux qui coupent les prix ne veulent pas vendre un crédit, faut regarder la baiser. Il y a des fois qu'on se fait jouer pour tâcher de nous distraire. Ils nous comptent une petite histoire quand ils voient qu'on les regarde pas. C'est dans ça là qu'on se fait jouer ça. On cherche bon marché, c'est là qu'on se fait embêter. Sur les tomates et les petits pois, ça donne le brûlement d'estomac. Sur le blé d'Aine, le spaghetti, on vient le cœur tout englouti. On aime payer plus cher, bien oui, quelque chose qu'on digère. Mes amis, je vous en prie, si vous achetez à crédit, si on vous demande l'argent, montrez-vous pas indifférent. On paye un peu plus cher, mais ça fait même mieux l'affaire. Quand on jette le beau marché, on risque de s'empoisonner.
Et c'est ce qui conclut cette émission. Dans le champ lexical est une réalisation de Mathieu Charlebois et Joannie Larue. On fait leur épicerie avec nous cette semaine. Pierre Duchesneau à l'anecdote, Lisanne Rouleblanc à la lecture et à l'écriture, Christiane Campagna aux chansons thématiques, Sonny Duval à la chanson originale, Annie Rossano au vox pop et Chloé Barry à la liste d'épicerie extrême. On jouait dans nos oreilles Dimanche de Canaille, La grosserie du coin de la Bolduc et Bitray de Son Luxe. Revenez-nous la semaine prochaine pour un mot qui prend de plus en plus sa place, rue.
À qui la rue?